Martin Fourcade, en quelques chiffres, ce sont 15 ans de carrière, 5 titres olympiques, 7 gros globes de cristal, donc cette fois vainqueur du classement général de la Coupe du Monde, 26 petits globes, ce qui fait de vous donc le recordman en termes de globes, 33 au total, mais aussi 13 fois champion du monde, un palmarès impressionnant, voire vertigineux pour le biathlète français que vous êtes, considéré comme l'un des deux meilleurs de toute l'histoire avec le Norvégien Bjørn Dalen, avec qui vous avez partagé un beau moment de carrière. Une carrière qui en a fait vibrer plus d'un dans son canapé, dont moi, et qui continue aujourd'hui d'en faire rêver sur les planches avec votre spectacle hors piste. Avant de se pencher un petit peu plus sur ce spectacle, qu'est-ce qu'on ressent quand on entend tout ce palmarès dans lequel je n'ai compté que les titres, mais pas toutes les médailles en général?
Alors moi j'ai assez de recul par rapport à ça, parce que j'étais quelqu'un, on va dire, de très ambitieux et de j'avais un rapport à la compétition qui était extrêmement prenant, mais en fait assez étrangement je me suis jamais trop projeté dans à la fois dans les comparaisons, à la fois dans les dans les chiffres, dans leur grandeur. Donc voilà, j'avais envie de gagner quand je prenais le départ d'une compétition, mais j'arrivais assez vite à m'affranchir des résultats justement pour me projeter pour la suite sur la course d'après. Donc c'est bien sûr un regard bienveillant sur un palmarès et sur un parcours. Mais en tout cas, il n'y a pas de flagornerie ou de... Voilà, c'est assez étrange, mais ce n'est pas vraiment une fierté dans le sens où c'est plus de la douceur.
Donc une certaine humilité par rapport à tout ça.
Clairement.
Un parcours, voilà, c'est un passage de votre vie. Hein.
Un passage de ma vie qui a été très riche, qui a été... Ouais, moi, je retiens beaucoup les émotions, les rencontres, les moments un petit peu poignants. Et bien sûr, quand je prends du recul, je me rends compte que par certains aspects, c'était un parcours un petit peu exceptionnel sur certains points. Mais comme je le disais, je le regarde avec beaucoup de douceur et d'humilité.
Vous parcourez depuis quelques temps maintenant les routes de France avec votre spectacle autobiographique qui parle de plein de choses, notamment la relation avec votre frère Simon, qui était votre idole et dont vous avez voulu suivre les traces. Comment vous avez géré cette pseudo-rivalité intrafamiliale?
Alors c'est vraiment quelque chose dont j'avais à cœur de parler dans le spectacle, parce que c'est quelque chose qui a été marquant, mais quand on regarde le spectacle jusqu'au bout, on se rend compte que c'est une singularité, mais qu'en aucun cas ça a été en tout cas vécu comme quelque chose de douloureux. Au contraire, moi j'ai toujours considéré que c'était une chance unique de pouvoir partager cette tranche de vie et cette... une carrière de sportif avec une des personnes dont on est le plus proche, son frère en l'occurrence. Donc voilà, beaucoup de tendresse vis-à-vis de lui. Et oui, on a eu des moments compliqués, comme il y en a dans beaucoup de fratries, mais on en a réussi à en sortir grandi. Et je crois que ça fait partie de mon histoire, de ma construction. Donc j'avais à cœur d'en parler dans ce projet.
15 ans de carrière, 15 ans à sillonner les différentes pistes de biathlon, loin de la famille. Vous en parlez aussi dans le spectacle, de la manière dont vous avez dû gérer tout ça.
Ouais, c'est un mode de vie un petit peu particulier. En étant absent 220 jours par an, forcément il faut s'adapter. Il faut aussi avoir la chance, comme je l'ai eu, d'avoir un entourage qui comprend nos choix de vie, qui comprend notre investissement dans notre projet de carrière. Et puis après, voilà, je crois que ça fait aussi partie c'est une des raisons de ma fin de carrière précoce, parce que j'avais aussi envie de retrouver un peu plus de normalité, une vie de famille, et ça faisait partie en tout cas des choses qui étaient importantes pour moi, mais à refaire, j'en referais exactement la même chose.
Hors piste, c'est plus que vous sur scène qui racontez simplement une histoire. Vous avez eu la volonté de créer et de construire un vrai spectacle, une véritable performance artistique, dans le but de vous reconnecter avec votre public, peut-être de manière plus intime.
Ouais, il y avait cette volonté de gratter un peu derrière le vernis, de donner ce qui n'avait pas pu être vu pendant la carrière, et de regarder, je crois que c'était vraiment important pour moi, de regarder au-delà de l'image du champion victorieux qui lève les bras sur un podium. Voilà, je crois que c'est ce qu'on retient beaucoup, et quand on me sollicite, et puis vous l'avez dit, le palmarès identifie forcément à ces images-là. Je voulais montrer qu'une carrière de sportif, c'était pas que ça, qu'il y avait d'autres émotions, d'autres sensibilités, et qu'il y avait voilà, quelque chose de beaucoup plus pluriel que, qu'uniquement la victoire.
Et pour créer ce projet alsacien, Mathieu Cruciani, donc co-directeur, enfin alsacien...
D'adoption.
Voilà, d'alsacien de cœur.
De cœur.
Pour créer tout ça, comment cette rencontre s'est initiée pour arriver à cette finalité?
Alors, j'avais ce projet et une volonté farouche de le faire aboutir. J'ai eu la chance d'avoir la main tendue de la scène nationale de Grenoble qui m'a produit et qui m'a accompagné dans la construction de ce projet et qui m'ont mis en relation avec Mathieu de par sa sensibilité pour le sport et de par voilà, une appétence aussi pour me pousser plus loin que ce que je l'avais imaginé dans la genèse de ce projet. Donc ça a été une très belle rencontre, et puis venir à Colmar du coup aujourd'hui faisait partie aussi de boucler cette boucle et de rendre un petit peu à Mathieu et à ses équipes tous ceux qui m'ont apporté sur la genèse de ce projet.
Durant votre carrière de sportif, vous étiez constamment préparé, entraîné, que ce soit physiquement ou mentalement. Comment vous avez appréhendé ce nouveau défi au niveau de la préparation ?
De manière assez similaire. Voilà, Mathieu a pris le rôle d'entraîneur, avec tout ce que ça comporte de rigueur parfois, dans l'exigence, dans... le besoin de me pousser plus loin, de me pousser à répéter, de me pousser à vivre le plus possible ce spectacle, et puis à la fois avec cette envie aussi de me donner confiance et de voilà, je raconte souvent que le rôle d'entraîneur c'est à la fois être le gentil et le méchant, parce qu'il faut d'exigence pour qu'un projet soit réussi, et puis il faut aussi accompagner la personne et lui donner confiance. Donc je crois que Mathieu a parfaitement relevé ce défi-là.
Il faut savoir jouer au bon et au mauvais flic, mettre en confiance, voilà. Tout en disant que là ça va pas.
C'est ça, j'avais le papa et la maman comme référence, mais je me disais que ça faisait pas très 2024 comme retour, donc le bon et le mauvais flic c'est mieux.
Vous en avez parlé avant, des sensations ressenties pendant les courses. Est-ce que les sensations avant de monter sur scène sont similaires? Elles sont différentes? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes derrière ce rideau, dans les coulisses, en sachant que la salle se remplit petit à petit?
Alors, il y a beaucoup de similitudes dans la méthode de préparation, dans la concentration, dans l'exigence que ça demande, dans le fait de recréer un rituel aussi sur les horaires, sur la répétition, comme je le faisais en tant que sportif. Après, je sens derrière ce rideau beaucoup plus de bienveillance que je ne l'avais avec mes adversaires en carrière. Et donc, voilà, on va dire que c'est assez facile de monter sur scène et de sentir que la salle est là avec nous pour passer un bon moment, pour se laisser surprendre aussi. Donc, non, il y a quelque chose de plus apaisé que sur un départ de Coupe du Monde.
De plus sain ?
De plus sain aussi. Oui, en tout cas, qui me correspond mieux aujourd'hui.
4 ans après votre toute dernière course et toute dernière victoire en carrière, devant aucun public, c'était à Kontiolahti en Finlande. Vous voilà maintenant à Colmar, devant un public. Un drôle de sentiment, un sentiment du moins particulier pour un drôle d'anniversaire.
Alors non, moi je trouve que c'est un bel anniversaire. Voilà, je le disais, je suis parti très apaisé et j'ai clôturé ma carrière de manière très apaisée. Donc je regarde ça avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de tendresse. Et oui, on se rend compte que 4 ans, le temps passe vite. Et c'était chouette de pouvoir être ici à Colmar ce soir pour fêter un petit peu cette date d'anniversaire, parce que j'en parle dans le spectacle, mais c'est une date qui pour moi va au-delà de ma fin de carrière. C'est beaucoup de symboles, ça me ramène aussi tout au début de ma carrière. Donc, très heureux d'avoir pu jouer ce 14 mars, qui est une date particulière dans ma carrière. Et en tout cas, très heureux aussi à chaque fois de pouvoir me retourner et de profiter de cette journée-là pour me remémorer des beaux souvenirs.
Une fin de carrière, c'était il y a 4 ans, la page a été tournée. Maintenant, vous êtes, on peut le dire, quasiment comédien. Est-ce que vous avez eu des retours, des messages de la part de vos anciens concurrents, de vos anciens adversaires par rapport à cette nouvelle carrière qui s'offre à vous?
Alors j'ai eu beaucoup de curiosité, mais malheureusement, comme je n'ai pas traduit le spectacle en anglais, mes anciens concurrents sont pas venus le voir. Mais j'ai des coéquipiers qui sont venus, j'ai des entraîneurs, j'ai des personnes de mon staff aussi. Donc oui, c'est je crois aussi pour eux l'occasion de revivre ces moments qui ont été touchants, qui ont été marquants et qui font aussi partie de leur vie. Donc c'est plutôt un chouette rapport avec les personnes que ça implique malgré eux dans ce spectacle.
Donc les frères Beu ne sont pas venus?
Non, le français des frères Beu laisse à désirer.
Ah, me voilà déçu. Athlète de haut niveau, militaire, père de famille, auteur, comédien, ça fait beaucoup. Quelles sont les prochaines étapes de la vie de Martin Fourcade?
Alors, si vous le savez, je suis preneur. Mais non, je crois qu'il y a ce projet que j'ai envie de mener à son terme jusqu'à la fin du mois d'avril. Il y a ensuite les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris qui vont focaliser toute mon attention jusqu'au mois de septembre. Et puis, je crois qu'ensuite, il sera temps de se poser quelques semaines pour pouvoir réfléchir sereinement à ce que j'ai envie de faire de la suite. Ce projet est né pendant le Covid, au premier jour du Covid, dans mon jardin, en train de réfléchir à ce qu'allait bien pouvoir être la suite après 15 ans de carrière de haut niveau, alors que le monde était au bord de l'apocalypse à côté. Donc je suis, on va dire, aujourd'hui plutôt serein sur la manière dont les temps de pause peuvent aussi aider à construire des projets et à nourrir des chouettes choses pour la suite. Donc voilà, il me tarde l'automne prochain pour pouvoir me projeter un petit peu plus sur la suite.
Pour ceux qui vous suivent un petit peu sur les réseaux sociaux, on vous voit beaucoup t'ouvrir les skis au pied, cette fois-ci un petit peu plus de randonnée. Comment vous faites pour avoir le temps d'enfiler les skis tout en étant sur scène un petit peu partout en France?
Ça fait partie des points que j'ai assez rapidement identifiés, avoir envie d'avoir des projets qui me tiennent à cœur et qui m'impliquent à 100%, tout en ayant du temps aussi à côté pour pouvoir profiter des choses que j'aime. J'ai fait 15 ans de carrière de haut niveau avec tout ce que ça comporte aussi de, alors j'aime pas le mot sacrifice, mais de choix parfois un peu contraignants. Et donc oui, aujourd'hui, d'avoir une vie qui est beaucoup plus libre et de pouvoir profiter plus que je ne l'ai fait pendant ma carrière fait partie de mes aspirations. Donc c'est à la fois on va dire un besoin et puis à la fois quelque chose qu'on se crée aussi, parce qu'on n'était pas obligé d'aller courir avec Mathieu ce matin et donc voilà, on prend le temps et puis on se bloque aussi des moments dans une vie qu'on ne fait que remplir si on ne prend pas le temps de se poser. Donc voilà, je pense que ça fait partie aussi des choses qui sont importantes pour moi.
Mathieu Cresciani, une petite question quand même pour vous. Qu'est-ce que ça fait de recevoir un jour dans sa boîte mail un message de Martin Fourcade qui demande votre aide, de l'encadrer pour monter ce spectacle?
Ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Mais la scène, comment dire, fantasmatique, c'était pas tout à fait celle-ci. Non, quand on m'a proposé de rencontrer Martin, beaucoup de curiosité. Et honnêtement, c'est ça qui est un des grands plaisirs de mon métier, de nos métiers, quand tu diriges un théâtre, ou que c'est toutes les rencontres inopinées, étranges que ça te permet. Donc j'y suis allé avec beaucoup d'appétit, et surtout en me disant, est-ce que tu vas être la bonne personne pour l'aider en fait, en vrai. Donc j'avais surtout de la curiosité là, de voir ce qu'il allait me raconter de ce projet, quelle personne j'allais rencontrer, et puis d'y aller pour de bonnes raisons. Et quand je me suis dit oui, je vois un peu les contours de ce qu'il veut faire, je pense pouvoir lui être utile, c'est une petite responsabilité hein, quand même. Quand quelqu'un, normalement moi je suis simplement responsable de ce que je fais comme projet, là se débrouiller pour qu'aujourd'hui par exemple Martin soit heureux du cheminement et de la rencontre qui a lieu chaque soir avec le public, je voulais être sûr de ça. Rapidement, quand on s'est rencontrés, je me suis dit on parle la même langue et ça va être simple. Voilà.
plus simple qu'avec les frères Beu, par exemple. Du coup,
non, moi, ce qui était rigolo dans cette jeunesse, c'est que c'est aussi, vendre, le mot n'est pas bon, mais moi, je suis sur un projet sur lequel je travaille depuis 6 mois, donc je commence à comprendre les contours et essayer d'arriver à embarquer Mathieu dans mon petit délire, alors que, comme vous le disiez tout à l'heure, étant une personnalité, il a forcément une certaine image de moi, avec ce que ça comporte de vrai et de faux, et de se demander comment on va arriver à se projeter. Donc ça, c'était les premiers contacts. Pour moi, j'ai ce souvenir-là de beaucoup d'écoute pour essayer de comprendre ce mon projet et de voir comment il pourrait l'enrichir. Donc il y a beaucoup d'écoute au début, il y a beaucoup d'échanges avant de rentrer en fait dans le vif du sujet, dans le travail, et de finalement il y a plusieurs mois qui sont écoulés entre déjà le moment où on a pris contact et le moment où on s'est rencontrés de manière physique,
ouais.
et puis ensuite entre le moment où j'ai commencé à aborder le pitch et puis le moment où on a retroussé les manches pour en faire quelque chose de concret.
Parce que ce spectacle, c'est du coup vous, Martin, qui l'avez écrit. Mathieu, je crois que vous êtes occupé de tout ce qui est plutôt mise en scène et acting. Comment ça s'est créé? Si ma mémoire est bonne, ça s'est passé à Grenoble pendant quelques semaines. Du coup, comment vous avez finaliser cette création de projet en partant d'une idée pour la rendre concrète?
Il y avait deux projets. Il y avait l'écriture du spectacle et puis il y avait le travail avec Martin sur qu'est-ce que c'est que jouer sur un plateau. Donc j'ai fait un peu les deux en même temps, en essayant de commencer vraiment du début, de trouver quelle était la meilleure expression scénique à donner, la plus claire, la plus... On s'est entouré de gens, lumière, création originale de la musique, scénographie. Et puis voilà, j'ai travaillé chaque après-midi avec Martin un peu aux deux choses. Et notamment, je me souviens pas mal, c'est amusant, mais une parole médiatique, ça n'est pas une parole réelle, même dans les intonations, en fait, en vrai. Donc je me souviens qu'on a eu un petit boulot à faire là-dessus, sur « fais attention, parce que ça fait un peu déclaration ». Donc c'est quoi, en fait? On parle toujours différemment, selon les gens à qui on s'adresse, selon qu'on s'adresse à son père ou à son banquier. On n'a pas tout à fait les mêmes mots, ni la même voix, on ne la place pas de la même manière. C'est inconscient, mais ça raconte beaucoup. Donc voilà, on a mené ces deux choses-là de front. On l'a créé assez rapidement, finalement, et dans une grande fluidité. Il n'y a pas des moments où on est rentré le soir en se disant « aïe, on n'y arrivera jamais ».
Ça, c'est lui.
Toi,
moi, j'ai eu du mal sur la première séquence de travail a été dense pour moi, déjà parce que j'étais face à Mathieu et à Parel, l'assistante à la mise en scène, qui me bombardait de retours, parce que c'est là où j'avais le plus à apprendre. Avec une consigne qui avait été celle de ne pas apprendre le texte et donc du coup de ne pas pouvoir non plus m'affranchir de ce que j'avais à lire. Et donc voilà, je crois que le retour sur scène à la rentrée où j'avais pu me saisir du texte, j'avais pu digérer les premières interventions, là je me suis dit oui, c'est un timing serré, il va falloir pas se louper, mais on va faire quelque chose de sympa, là où sur la première semaine ça allait vraiment de haut en bas et où j'ai eu des moments où je me suis dit dans quoi je me suis embarqué parce que ça va être parce que c'est dur et parce que je suis pas sûr d'y arriver. Mais voilà, je crois que c'est des doutes aussi qui sont légitimes quand on se lance sur un projet comme celui-là, où on sait qu'il y a plus de 20 000 personnes qui vont venir regarder et donc acheter un billet pour venir voir le spectacle, et où on n'a pas envie de les décevoir aussi, voilà, au-delà de tout ce qui était important pour moi dans ce projet en termes d'épanouissement, en termes de richesse, de découverte, etc. Il y avait ce point-là qui était nourri tous les jours, mais il y avait aussi l'impératif de devoir plaire aux autres, surtout. Et donc ça, c'était, oui, c'était une pression qui était assumée, mais qui n'était pas facile à porter au début.
Vous l'avez dit, quasiment 20 000 personnes vont vous voir en totalité sur les différentes dates. Est-ce que vous vous attendiez, au moment où vous avez eu cette idée de monter un spectacle, est-ce que vous attendiez à un tel succès?
Alors, je vais paraître très prétentieux, mais sur la commercialisation, j'étais assez serein pour plusieurs raisons. Tout d'abord, celle de la rencontre avec les fans, la curiosité aussi que pouvait appeler ce projet, parce que... même si je ne suis pas passionné de sport, que ça passe à côté de chez moi, je me dis que j'aurais, en tout cas à titre personnel, une appétence à avoir cet objet un petit peu hybride. Donc sur la commercialisation, j'étais, on va dire, assez serein. ce qui évoquait, en tout cas ce qui était une, pas une crainte, mais qui était une vraie volonté chez moi, c'est que les gens ressortent satisfaits de ça, parce que voilà, payer un billet pour entrer dans une salle, c'est facile, en ressortir heureux de la soirée qu'on a passée, c'est parfois plus compliqué. Et donc ça, c'est la plus grande réussite pour moi de ce projet, c'est les retours qui me sont faits, je ne m'attendais pas à ça. J'ai eu une personne la semaine passée qui m'a dit je m'attendais à vous dire c'est bien pour un sportif, quoi. C'est plutôt très bien pour un sportif, et j'ai enlevé le pour un sportif. Donc voilà, c'est des petits témoignages comme ça qui font chaud au cœur, parce qu'on s'est impliqué dans ce projet, on a beaucoup travaillé parfois, alors, contre vents et marées, le mot est fort, mais il fallait trouver des personnes qui croient aussi fort que moi dans ce projet, que ce soit de la production à la mise en scène. Voilà, c'était un projet qui n'était pas facile à expliquer, parce qu'il n'y a pas trop d'équivalent, en tout cas, où on n'en a pas trouvé en travaillant sur ce projet-là, et qu'il fallait justement arriver à lier aussi deux univers qui sont souvent opposés, et que je crois qu'on a réussi à bien mélanger sur Hors-Piste.
Hors-Piste, un spectacle qu'on pourrait qualifier de documentaire. Beaucoup de personnes font maintenant des documentaires sur eux, sur leur vie ou sur leur carrière passée, qu'on peut retrouver sur différentes plateformes de streaming, des documentaires vidéo. Ça ne vous a pas intéressé ?
Non, ça ne m'a pas intéressé, parce qu'il y avait ce besoin d'humain. Voilà, vous avez parlé d'une fin de carrière à huis clos pendant le Covid, avec six courses à huis clos qui ont été assez étranges pour clôturer une carrière. Et donc, la raison d'être de ce projet, c'était de retrouver quelque chose d'humain. Voilà, on sortait de deux années de Covid où on est passé de l'humain au virtuel. Donc non, tout ce qui était digital n'était pas du tout quelque chose qui m'attirait. Et c'est en ça que le spectacle vivant et que le théâtre m'a appelé. C'est qu'il y avait ce partage, il y avait cette relation entre celui qui raconte et qui écoute, qui est réel, et voilà, de pouvoir être concret, être vrai, c'était quelque chose qui était primordial pour moi.
Une dernière question qui tend un petit peu plus vers le personnel. Une carrière de sportif, il y a énormément d'exigences alimentaires en fin de carrière. Comment ça se passe? Est-ce qu'on garde cette rigueur? Ou est-ce qu'il y a une forme de soulagement, parce qu'on peut enfin se lâcher sur tout ce dont on s'est privé?
Je crois qu'il y a avant tout une écoute du corps qui reste présente, parce que quand on prend soin de son corps comme son outil de travail pendant 15 ans, c'est pas pour en faire n'importe quoi sur les 10 années qui suivent. Ensuite, oui, forcément, il y a beaucoup plus de latitude, de liberté, et je m'autorise des choses que je ne me serais jamais autorisé en tant qu'athlète. Mais avec aussi une attention pour ce qui est bon pour moi et aussi pour un peu pour ce qui m'entoure. Donc non, il n'y a pas de changement radical dans ma manière de consommer ou de me nourrir. Après oui, il y a beaucoup plus de liberté aussi, parce que les contraintes se sont elles envolées. Donc on est forcément moins extrémiste dans les choix qu'on peut faire, et parfois ça a aussi du bon.
Martin Fourcade, merci beaucoup.
Avec plaisir.